Bonjour David, bonjour à tous. Les entreprises doivent renforcer leur sécurité numérique. Un vrai enjeu évoqué mardi dernier lors d'un webinaire depuis l'entreprise MTI de Cerizay. Deux écoles de Chiché et Mauléon vont participer à un programme de sensibilisation à l'écomobilité. Objectif, favoriser les changements d'habitude de déplacement aux abords des écoles. La traditionnelle collecte de la banque alimentaire le week-end dernier impactée par l'inflation, les dons ont en effet été moins nombreux. C'est la dernière ligne droite pour faire acte de candidature pour le tremplin des arts Rosé d'hiver de Thouars, édition 2022, qui aura lieu le 14 janvier prochain. Et puis, nous évoquerons aussi ce stage de linogravure qui vous est proposé cette fin de semaine et week-end à Voulmentin, quartier Saint-Clémentin. Quant à la météo, le temps restera majoritairement nuageux cet après-midi. 150 entreprises ont participé mardi dernier à une sensibilisation à la sécurité numérique organisée par Pôle emploi avec les experts de la gendarmerie. Cet événement a été relayé par Pôle Métal 2S et c'est l'entreprise cerisienne MTI qui accueillit les intervenants. Il faut savoir que les cybermenaces ont augmenté de 400% depuis le début de la crise sanitaire. Plus d'une entreprise sur deux en a été victime au cours de l'année 2021. 43% des cyberattaques viseraient les petites et moyennes entreprises. Pour Thomas Fournier, directeur adjoint à la direction de la maîtrise des risques à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit d'inculquer aux entreprises cette culture de sécurité numérique.
Par exemple, les deux tiers des cyberattaques, c'est du phishing. C'est-à-dire un mail qui est illégitime, mais qui semble complètement normal et qui finalement va faire en sorte de profiler l'entreprise ou alors directement de mettre en place un système d'escroquerie qui peut être massif. Donc, être capable de caractériser un phishing, c'est déjà un premier pas. Le cœur de cible, c'est notamment les entreprises de moins de 10 salariés qui n'ont pas des procédures, des politiques de sécurité informatique et numérique. Donc ce sont finalement des entreprises parmi les plus vulnérables. Donc c'est un discours qui est très simple, mais très opérationnel.
Ce webinaire mardi après-midi a permis de présenter une quinzaine d'attaques les plus courantes et comment y faire face. 33% des entreprises victimes de fraude ont subi un préjudice supérieur à 10 000 euros et 14% d'entre elles un préjudice supérieur à 100 000 euros. Alors, que faire lorsque l'entreprise est victime d'une cyberattaque? Écoutez la réponse du lieutenant-colonel Boncompin, responsable du bureau de l'appui numérique à l'état-major de la gendarmerie Nouvelle-Aquitaine.
Dès qu'il y a le moindre signe, c'est-à-dire l'ordinateur qui se fige, des systèmes qui marchent moins bien, la première des choses à faire, c'est déconnecter son ordinateur, l'ordinateur infecté, du réseau informatique. C'est-à-dire qu'on essaie d'isoler la machine, du réseau Wi-Fi, du réseau Internet, pour l'isoler, mais on évite d'éteindre la machine elle-même, d'éteindre électriquement. Parce que ça, pour nous, après, derrière, pour l'enquête, c'est important. Ça permet de garder des preuves, ce qu'on appelle des preuves numériques.
Alors justement, l'enquête, on imagine que c'est extrêmement compliqué de mener des enquêtes dans cet univers.
Il faut porter plainte. Il faut que la victime porte plainte. C'est une des premières choses. En cas d'urgence, d'ailleurs, on peut même faire le 17. Mais on a des dispositifs et des experts qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire, en gendarmerie. Et donc après, c'est tout le principe de l'enquête, qui peuvent être très longues, souvent qui se font à l'international et qui peuvent aboutir à de beaux résultats. Donc ce n'est pas une fatalité.
Depuis le début de l'année, ce sont plus de 1600 entreprises qui ont été sensibilisées à la sécurité numérique, comme ce fut le cas donc avant-hier, à travers ce webinaire organisé depuis l'entreprise MTI à Cerizay. La traditionnelle plénière du club des entreprises du Bocage ce jeudi, après la visite de l'entreprise Pierre-Jacques Mingret de Bressuire en fin d'après-midi, Philippe de Sertine, économiste et consultant, animera ce soir une conférence à la salle de la Griotte à Cerizay sur le thème « Comment s'en sortir et saisir les opportunités ». Mobi, un programme national de sensibilisation à l'écomobilité scolaire lancé à Chiché et Mauléon. Ce programme national accompagne en effet les collectivités dans l'objectif de favoriser les changements d'habitude pour instaurer un équilibre durable entre les piétons, les vélos et les voitures aux abords des écoles. Mobi va donc être testé dans les écoles Notre-Dame et Saint-Joseph qui se sont portées volontaires. Concrètement, pendant 2 ans, il va s'agir de comprendre les pratiques de déplacement et les enjeux spécifiques de chacun de ces établissements. On y impliquant les acteurs que sont les élèves, les parents et les professionnels. Danny Grelier, vice-président de l'Aglo de Bé en charge des transports, au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Oui, ils seront bien évidemment entendus et écoutés, mais dans un premier temps, il y a un état des lieux qui va être fait, le pourquoi et du comment pour tel mode de déplacement, et après, voir ce qui peut être proposé de mis en place pour une mobilité plus douce.
Oui, là, on recense les besoins.
Les besoins ou les habitudes, parce que souvent, on se rend compte que c'est pas forcément des besoins, mais c'est des habitudes ou un petit confort qui pourrait être remplacé par autre chose qui pourrait permettre justement de se déplacer sur quelque chose de plus durable.
Ouais, 2 ans, il y a le temps d'approfondir.
Exactement, et c'est ce qui nous intéresse hein, dans un premier temps de voir sur ces 2 écoles. Et en plus, c'est bien parce qu'au niveau du territoire de l'agglo 2B, elles sont situées à l'est et à l'ouest du territoire. Ce qui fait qu'on va voir ce que cette étude va donner et après si d'autres écoles vont s'inscrire, selon bien évidemment hein, les budgets qui seront votés tous les ans au niveau du budget transport, on essaiera de répondre positivement à toutes les études qui pourront être faites.
Cette action est coordonnée par un bureau d'études retenu dans le cadre du programme des certificats d'économie d'énergie labellisés par le ministère de la Transition écologique et financé à 75% par des énergiciens. La part restante est répartie entre les communes et l'agglo de Baie à hauteur de 1 819 € hors taxes chacune. Ce n'est pas vraiment une surprise. La collecte de la banque alimentaire le week-end dernier a souffert de la crise qui impacte le porte-monnaie de tous les foyers. Les clients des supermarchés sollicités par les bénévoles de la banque alimentaire se sont montrés moins généreux que les années précédentes. Michel Morin, le président de la Banque Alimentaire des Deux-Sèvres.
Ce bilan, il est un petit peu comme on avait pressenti, à savoir, compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat et de l'inflation, nous avons été bien entendu impactés par cette collecte de 2 jours et demi. Au premier résultat, disons, puisqu'on n'avons pas terminé totalement le tri, hein, il y a encore quelques magasins à ramasser, on serait quand même sur une base de plus de 10% de baisse par rapport à l'an dernier, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de 80 tonnes, on pense qu'on va avoisiner plutôt les 70 tonnes cette année. Ça correspond, je dirais, au manque à gagner des 15% dans le panier des clients. Eh ben, on le retrouve dans la collecte, tout naturellement.
Moins de dons le week-end dernier pour la banque alimentaire, mais il n'est jamais trop tard pour se montrer généreux.
Il n'est jamais trop tard, il y a déjà sur le site Mon Panier Solidaire, où les personnes peuvent donner, bien entendu, et ça attribuer à la Banque Alimentaire des Deux-Sèvres, il n'y a pas de souci. Les dons sont toujours les bienvenus, hein, là également privés, etc., de manière à pouvoir un petit peu compléter, je dirais, dans les mois à venir, le manque à gagner. Et je tenais à souligner quand même cette année, on a eu de l'aide de certaines écoles qui ont collecté, et puis des jeunes qui sont quand même venus nous rejoindre là les 2 derniers jours et encore aujourd'hui pour faire du tri, ce qui est quand même ça un facteur très positif.
Michel Morin, le président de la Banque Alimentaire des Deux-Sèvres, interrogé par Fabien Gazeau. Delphine Bateau s'étonne de la publication le 24 novembre dernier de 2 arrêtés autorisant la création de 2 parcs éoliens dans le Mélois. Pour ces 2 projets, les enquêtes publiques avaient pourtant conclu un avis défavorable. Une majorité de communes concernées avait délibéré contre, de même que la communauté de communes. Cette décision intervient alors que le projet de loi sur les énergies renouvelables est en débat à l'Assemblée nationale. L'amendement que la députée des Deux-Sèvres a fait adopter en commission contre l'avis du gouvernement et qui sera discuté en séance à partir du 5 décembre permet en effet d'éviter la saturation et la concentration des projets dans certains territoires. La sagesse aurait voulu que dans de telles conditions ces projets ne soient pas autorisés par la préfecture contre l'avis du territoire, conclut Delphine Bateau. À Thouars, 7 chances pour les artistes locaux grâce au tremplin des arrosés d'hiver. Plus que quelques heures pour faire acte de candidature. Groupes, duos, solistes de musique actuelle, les artistes, sauf les DJ, peuvent s'inscrire jusqu'au 4 décembre sur le site du conservatoire Tindo. Histoire de mettre le pied à l'étrier, comme l'indique Sébastien Auger, animateur au centre socioculturel du Thouarsé, qui garde un souvenir ému du vainqueur du premier tremplin, le groupe tourangeau de reggae Kaleïd. Fréquence souvenir au micro-colline de notre correspondant Antoine, c'est Dominique Hérault.
Ils avaient gagné le tremplin organisé au conservatoire et avaient du coup fait la première partie des arrosés d'hiver avec un beau show qui a été en plus développé sur 2 séances d'enregistrement au conservatoire. Ils ont fait la première partie de Vanupier qui était une soirée incroyable où c'était complet, donc ça leur permet d'avoir une bonne visibilité en première partie d'un groupe professionnel et de déjà de se confronter à une scène professionnelle. Nous on était contents de leur show et eux plein d'étoiles dans la tête également. Aujourd'hui il y a 7 inscrits par rapport au premier cru, on est exactement sur les mêmes chiffres, donc on peut retrouver du rock, hein, du hip-hop, de la pop, tout style de musique possible. Et après ils viennent du centre-ouest, on essaye même de faire une com très locale au niveau du nord de Sèvres en s'appuyant sur des salles comme Bocal à Bressuire ou Diffart à Parthenay qui sont des bons relais.
Tout ceci dans le but de promouvoir les talents locaux. Quant à la tête d'affiche des arrosés d'hiver qui auront lieu le 4 février prochain, elle n'est pas encore désignée et le contexte actuel ne facilite pas les choses. Sébastien Auger.
On est loin d'être en capacité d'annoncer l'affiche des arrosés d'hiver. Le monde culturel de la musique subit aussi l'inflation. Ce qui coûte cher, c'est tout simplement les cachets qui ont augmenté de 20%. Alors, c'est dû à l'inflation globale, hein, entre l'essence et diverses choses. Et ce qui fait que, vu que nous, on veut, avec le conservatoire, garder un prix d'entrée de 5 euros, on n'a pas un budget énorme. Et le fait que les cachets augmentent, bah, ça rend la tâche encore plus difficile. Mais on va y arriver et on va trouver quelque chose de sympa. J'ai pas de doute là-dessus.
Trois dates à retenir. S'inscrire avant le 4 décembre sur le site internet du conservatoire Tindot de Thouars ou au téléphone au 05 49 66 41 64 afin de participer au tremplin du 14 janvier pour y gagner sa place sur la scène des Arts Rosés d'hiver le 4 février en ouverture du groupe phare. C'est le moment de faire connaître son talent. Reportage signé Dominique Hérault. Ce week-end sera marqué par de multiples animations partout en France afin de collecter des fonds pour le Téléthon. Sachez qu'à Bressuire, l'opération débutera dès ce jeudi à 20h à Bocapaule avec le concert de Jacques Barbeau qui chante Brel à l'invitation de l'Union des commerçants. Si vous souhaitez vous initier à la linogravure, un stage est proposé cette fin de semaine. La linogravure ou la gravure sur linoléum, elle est réalisée à l'aide de gouges, outils coupants munis d'un manche qui permettent de retirer des copeaux de linoléum et à ancrer les parties intactes, comme nous l'explique Anne-Sophie Delion qui animera ce stage dans son atelier à Voulmentin, quartier Saint-Clémentin.
On enlève de la matière sur ce support-là et ensuite on va ancrer les zones qui restent et ensuite on va l'imprimer sur une presse. Il n'y a pas de limite, c'est un support comme une feuille blanche et puis on fait ce qu'on veut dessus.
Faut-il avoir des prédispositions particulières ?
Pas forcément. S'il peut y avoir une recommandation, c'est peut-être sur la capacité manuelle, en fait, être à l'aise sur la manipulation des outils.
Qu'est-ce que vous allez proposer exactement ?
Alors, l'idée, c'est d'expliquer ce qu'est la gravure, parce qu'il y a plusieurs techniques. Là, c'est la technique d'épargne qu'on va aborder. Ensuite, on va définir le projet, définir le dessin. Ensuite, on va faire le report du dessin sur la plaque en lino. Ensuite, on va enlever de la matière, ancrer et faire le tirage sur papier d'art qu'on aura préalablement découpé.
Ce stage de linogravure aura lieu au choix vendredi, samedi ou dimanche prochain à Voulmentin, quartier Saint-Clémentin. Informations et inscriptions au 06 83 13 19 13. L'actualité sportive en tennis, Bressuire a décroché un nul hier à Sannois en région parisienne sur le score de 3 partout. Ultime rendez-vous de la saison pour le TCB, ce sera samedi chez le leader Boulogne-Billancourt. Un rendez-vous sans réelle pression puisque le maintien dans l'élite du championnat par équipe est acquis pour l'année prochaine. Cholet Basket est fixé depuis hier soir sur l'identité de ses adversaires lors du deuxième tour de la FIBA Europe Cup. Les Choletais accueilleront à la Meyrée le 20 ou le 21 décembre les Roumains de Craiova après un déplacement une semaine auparavant chez les Allemands de Chemnitz. Toujours au sujet de CB, sachez que plusieurs Choletais viennent d'être sélectionnés pour le All-Star Game le 29 décembre à l'Accor Arena de Paris. Grâce à son bon début de saison, Cholet Basket y aura 4 représentants. Boris Dalot dans la sélection française qui se retrouvera face à son coéquipier américain Dominique Artis, retenu dans la sélection monde. Teddy Campbell disputera lui le concours des meneurs. Le coach Choletais Laurent Villa a lui été sélectionné comme entraîneur de la sélection monde. En attendant, il y a le championnat de Betclic Elite et ce déplacement pour les Choletais demain vendredi à Roanne.